aura une carrière politique s'il travaille.
Je n'endors pas.
Et s'il est reconnu par la population.
Je veux vous rassurer.
Ma façon d'agir a parfois dérangé certains.
La différence nord-sud dans les chiffres de l'épidémie. Ce matin, on dissèque tout cela dans les coulisses du pouvoir avec vous, Bertrand Haine, à 7h41. Bonjour Bertrand.
Mais bonjour.
La Wallonie et Bruxelles qui font en effet face à une explosion de cas de Covid-19, explosion beaucoup plus forte qu'au nord du pays. La frontière linguistique est devenue en quelque sorte une frontière du coronavirus, Bertrand.
Et si la Wallonie était un État indépendant, elle serait aujourd'hui le pire pays de l'Union européenne en matière de contamination au corona. Le taux d'infection par 100 000 habitants est de 586 en Wallonie, 833 à Bruxelles sur les deux dernières semaines. Pour rappel, pour rentrer en zone rouge, dans la dernière carte de l'Union européenne, il faut être à 250. C'est ce qu'écrit le journal The Standard ce matin, qui, à la suite de la VRT, cherche à comprendre comment une telle flambée des cas a pu se produire dans le sud. Pour revenir avec les chiffres, toutes les provinces wallonnes ont des taux d'infection plus élevé que les provinces flamandes, sans exception. Mettons Bruxelles de côté parce que c'est une grande ville, ça rend la comparaison avec d'autres provinces plus rurales délicates. Mais prenons par exemple deux provinces qui peuvent se comparer, le Brabant flamand et le Brabant wallon. Le Brabant flamand est deux fois moins élevé que le Brabant wallon. La province de Limbourg est à 102, alors que la Wallonie aussi entre 351 cas pour la province du Luxembourg, 474 dans le Brabant wallon, c'est-à-dire entre 2 et 3 fois plus. Et c'est pas un hasard. Ça ne peut pas être dû au hasard. La dissémination du virus suit plus ou moins, en effet, la frontière linguistique. Peut-être plus pour très longtemps, d'ailleurs, mais en tout cas, pour l'instant, c'est frappant.
Alors, comment expliquer une telle différence dans la flambée de ces cas, alors qu'en été, on s'en souvient, c'est le Nord qui était le plus touché avec un problème, notamment à Anvers.
Ouais, c'est ce que la presse du Nord cherche à comprendre, beaucoup plus que celle du Sud, qui semble pas tellement s'interroger. Mais oui, pourquoi ? Eh bien, la première explication vient du biostatisticien flamand Geert Molenbergs. Le cas d'Anvers, justement, aurait tenu en éveil l'attention des néerlandophones sur le risque d'une résurgence de l'épidémie. Dans le débat public en Wallonie, il y a eu plus d'expressions publiques contre les mesures corona. C'est ce qu'explique aussi Geert Molenbergs. Il conclut « Tous les signes indiquent que les gens sont plus prudents en Flandre qu'en Wallonie, fermez les guillemets ». Autre explication avancée dans la presse du Nord, la rentrée du supérieur qui a eu lieu une semaine plus tard qu'en Flandre, que dans le sud du pays. Et on sait que dans le supérieur, il y a beaucoup de problèmes. D'ailleurs, pas grand monde ne comprend vraiment dans le Nord que l'UCL puisse encore faire semblant de maîtriser les choses. Alors que, tenez-vous bien, dans le Brabant wallon, dans la tranche d'âge 20-30 ans, donc la tranche d'âge des étudiants, le taux de contamination atteint le chiffre astronomique de 1204 cas par 100 000 habitants, c'est 3 fois plus que la même tranche d'âge dans le Brabant flamand. Non, ça ne peut pas être dû au hasard. La courbe flamande pourrait peut-être, cela dit, dans une semaine ou deux, suivre la courbe wallonne. C'est une possibilité.
Ouais, en attendant, Bertrand, côté wallon, les autorités brillent par leur absence.
Oui, c'est assez frappant de voir qu'en attendant une nouvelle intervention du fédéral fin de semaine, le terrain est occupé par les gouverneurs de province. Des gouverneurs qui, c'est assez logique, n'ont pas pris nécessairement les mêmes mesures dans leur province. Le cas de Bruxelles est un peu différent. Bien sûr, le respect des règles sanitaires par la population n'est pas tellement non plus du ressort des régions. Mais quand même, on est frappé par le vide. Non pas que rien n'est fait en matière d'application des compétences régionales. On sait que le testing, par exemple, est régional. Le tracing ou les consignes en maison de repos. Les compétences, elles sont exercées. On peut en discuter, est-ce qu'elles sont bien ou mal, mais elles sont exercées. Mais ni le gouvernement wallon, ni les présidents de parti, ni les ministres fédéraux ne sont montés au front cette dernière semaine pour tirer la sonnette d'alarme, pour envoyer un message de mobilisation, de conscientisation aux francophones, alors que c'est évident, la maison brûle. On pourrait avancer des explications, le risque peut-être de l'impopularité, bien sûr, peut-être la fatigue liée à la négociation, que sais-je, mais une hypothèse, c'est que personne n'est capable aujourd'hui d'incarner une autorité suffisamment légitime, un leadership pour convaincre les francophones. Sophie Wilmès, souvenez-vous, avait pu le faire au mois de mars et en juillet, mais elle a annoncé il y a 3 semaines des mesures d'assouplissement des règles, ce qui s'avère aujourd'hui une erreur majeure. Alors qui d'autre donc ? Eliodie Rupo, Pierre-Yves Géolet, les présidents de parti ? Bof, des experts ? Bof, sauf ceux qui annonçaient qu'on exagérait peut-être, des journalistes, encore moins. Peut-être bien que la réponse, c'est personne. Si la Wallonie et Bruxelles ont les pires chiffres d'Europe, c'est peut-être parce qu'il n'y a plus d'autorité politique ou scientifique reconnue comme suffisamment légitime pour exiger des efforts de la part d'une population largement désabusée et méfiante. Sauf, et c'est peut-être notre seul espoir aujourd'hui, une personnalité flamande comme Frank van den Broek ou Alexander de Croo. Ce qui veut dire que quoi qu'il en soit, pour les leaders francophones, le début de cette deuxième vague ressemble déjà à une immense défaite.
Voilà, belle